Notre invité ce matin est spécialiste des questions de renseignement et de sécurité, enseignant à Sciences Po. Bonjour Olivier Chopin.
Bonjour.
Face à la menace, aux attentats de Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray, faut-il annuler les grands événements? Les décisions sont prises au cas par cas. La grande braderie de Lille, par exemple, n'aura pas lieu. En revanche, Lourdes s'apprête à accueillir à compter de ce jeudi des dizaines de milliers de fidèles pour son pèlerinage annuel. Est-ce, selon vous, le bon choix? Fallait-il maintenir ce pèlerinage?
Bah écoutez, la décision appartient de toute façon toujours conjointement, effectivement, localement au préfet et au maire des villes considérées. Alors le gouvernement peut avoir son mot à dire, évidemment, si jamais il était en connaissance d'une menace particulière qui atteindrait tel ou tel événement. Là, en l'occurrence, bon, effectivement, ce sont des décisions au cas par cas. Par exemple, du côté de Lille, il est clair que le nombre de points d'entrée, la surface qu'occupe l'événement pendant plus de 3 jours rendait l'événement totalement insécurisable. Tandis que Lourdes, là, manifestement, la préfecture annonce qu'elle peut avoir un certain nombre de points de contact, de points de contrôle de l'ensemble des gens qui se rendront à l'événement. Et la physionomie des lieux permet de le sécuriser avec un bon espoir de sécurité pour les pèlerins.
52 hectares, 22 lieux de culte, hein, quand même, Lourdes, on le rappelle.
A priori, oui, mais 3 points d'entrée, des capacités de sécuriser des rues piétonnes en étant à peu près sûr qu'aucun véhicule ne pourra y rentrer, etc. Bon, donc voilà, donc si vous voulez, c'est toujours la difficulté pour ceux qui prennent cette décision, c'est de faire la part des choses entre la probabilité d'un danger avéré et l'obligation de maintenir un événement. Là, étant donné le contexte après Saint-Étienne-du-Rouvray, a priori, il y a plus de pèlerins qui entendent se rendre au pèlerinage que d'habitude. Donc, c'est toujours un choix d'opportunité politique, en quelque sorte. Mais évidemment, si jamais il se passait quelque chose, les débats qui s'activent après chaque attentat sur les motifs d'autoriser ou non un événement de ce type se poseraient naturellement.
Mais cela veut dire que les enseignements de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray ont d'ores et déjà été tirés?
Oui, a priori, de toute façon, à chaque attentat, il y a une mise à jour de la base de données, si on peut dire, des modes opératoires et des intentions des adversaires. Le problème, c'est évidemment qu'on voit qu'il y a une multiplicité des capacités d'action et surtout une forme de simplicité extrême des attentats qui peuvent être commis maintenant simplement avec un ou deux individus au couteau, que ce soit en France à Saint-Étienne-du-Rouvray ou à Charleroi en Belgique en août, hein, parce que les attentats qui affectent la Belgique sont exactement dans la même logique d'action et connectés à ceux qui se déroulent en France, il ne faut pas les oublier. Et donc, évidemment, c'est impossible de prévoir quel type d'attentat pourra être utilisé la prochaine fois par l'État islamique ou d'autres organisations terroristes. Mais disons qu'on tient toujours compte de du dernier attentat qui s'est produit. On en tient même peut-être parfois trop compte, c'est-à-dire qu'on met toujours à jour le logiciel sécuritaire en fonction du dernier attentat commis, quand d'autres modes opératoires plus anciens peuvent aussi très bien être utilisés par les terroristes.
De fait, Olivier Chopin, est-ce que cela révèle une certaine forme d'impuissance des États et de la France, là en l'occurrence?
Bah, écoutez, des États en général, de la France en particulier, parce qu'on est l'État le plus touché en ce moment par les attentats et le plus désigné comme ennemi principal par l'État islamique, mais effectivement, ces modes opératoires et cette multiplicité d'actions qui peuvent être entreprises par des individus, donc qui ne sont quand même encore très rarement des individus isolés qui agissent sans préparation. Là, on voit bien pour Saint-Étienne-du-Rouvray que la préparation a été longue et complexe, qu'il y a eu un mécanisme de radicalisation en prison, puis de contact avec des autorités de l'État islamique. Donc ce ne sont pas des loups solitaires, selon la formule qui a été popularisée. En revanche, c'est sûr que quel que soit le dispositif de sécurité, et quand bien même il est extrêmement sophistiqué, comme c'est le cas en ce moment, puisqu'on a énormément de mesures qui s'empilent les unes sur les autres pour sécuriser le territoire et la population, on ne peut jamais empêcher un attentat de se produire.
Ce matin, Nicolas Sarkozy, dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, évoque la faiblesse de la France pour expliquer ces attaques, et il dit qu'à ce titre, eh bien, le droit doit évoluer. Qu'en pensez-vous ?
Bon, alors là, si vous voulez, il y a une séquence politique qui accompagne la séquence sécuritaire. Là, en ce moment, effectivement, depuis quelques semaines, les hommes politiques à droite, sans doute aussi motivés par des motifs d'alignement les uns par rapport aux autres dans le cadre des primaires, expliquent qu'il y a une sorte de faiblesse structurelle de l'État. Bon, c'est quand même difficile de le dire comme ça. La totalité des services de l'État de sécurité, qu'ils soient réactifs une fois qu'un attentat a eu lieu, ou préventif, les services de renseignement, de police, notre action diplomatique pour essayer d'anticiper la menace, sont quand même en train de tourner à plein, et on est quand même depuis 2 ans dans des empilements de lois d'exception qui correspondent à des logiques d'exception, la loi sur le renseignement, l'état d'urgence, en février une loi sur le renseignement pénitentiaire.
Mais justement, est-ce que la prolongation, là encore une fois, de 6 mois de l'état d'urgence, ou bien la garde nationale que veut mobiliser François Hollande, est-ce que tout ça a une véritable efficacité, ou est-ce qu'on est dans l'affichage politique ?
C'est un petit peu des deux. Alors, ça a une efficacité parfois sur le court terme. C'est-à-dire, effectivement, l'état d'urgence prolongé, au bout d'un moment, ne sert plus à rien. Une fois que vous avez fait toutes vos perquisitions dans des circonstances exceptionnelles et que vous avez pu utiliser toutes les possibilités de l'état d'urgence, on a vu la fois d'avant, avant l'attentat de Nice, qu'à la fin, il ne servait plus à grand-chose. Donc, le maintenir est aussi, effectivement, une forme de communication politique. Face à la répétition des attentats, le gouvernement, l'État en général, doit montrer qu'il agit et qu'il sécurise la population. Donc, comme on a effectivement déjà pris l'ensemble des mesures possibles, en quelque sorte, dans l'état actuel du droit, l'idée d'une réserve opérationnelle, l'idée de créer une garde nationale, permet de reproduire un discours de sécurité qui vise à impliquer les citoyens dans l'idée de leur propre protection. Donc, est-ce que c'est efficace pour empêcher un attentat en particulier qui s'est produit ou qui peut se produire ? Certainement non. Est-ce que c'est efficace pour augmenter le niveau de sécurité globale, oui. Donc là, ce que disent un certain nombre d'hommes politiques de droite, c'est ça ne suffit pas, la preuve, il y a encore des attentats, donc il faut changer le droit, et il faut commencer à assouplir un certain nombre de mesures, et il faut remettre en cause, en quelque sorte, quelques dispositifs de l'état de droit. Bon, là, la difficulté, c'est quand même que depuis 2 ans, on a quand même très sérieusement touché, non pas formellement à l'état de droit, on n'est pas sorti de l'état de droit, mais à l'esprit d'un état libéral au titre de la sécurité. Donc la droite fait en quelque sorte une sorte de surenchère en disant il faut faire un pas encore supérieur, ce qui n'est pas nécessairement pour déplaire au gouvernement actuel, puisque grosso modo lui-même était accusé d'avoir déjà poussé très loin les limites des logiques d'exception, et le fait que la droite surenchérisse permet au Premier ministre et un certain nombre de gens dans le gouvernement de dire nous défendrons coûte que coûte l'état de droit face à ceux qui veulent le mettre en cause. Donc là on voit qu'on est en fait dans un réalignement droite-gauche assez classique sur cette question, mais il faut quand même imaginer qu'on a très très nettement augmenté l'ensemble des mesures sécuritaires légitimes.
Très rapidement, pour terminer, Olivier Chopin, est-ce qu'il faut par exemple copier ce qui se passe à l'étranger ? 2 députés du Parti Les Républicains étaient là très récemment, ces derniers jours, en Israël. Est-ce que l'exemple israélien peut être copié ici en France ?
Bah écoutez, est-ce qu'il peut l'être techniquement ? Oui, hein, si on a envie de prendre toutes les mesures de l'État d'Israël qui vivent depuis des décennies dans un état d'urgence qui, lui, s'assimile à une forme d'état de guerre sur leur propre territoire presque au quotidien, enfin virtuellement, la France peut très bien suivre cette voie. Est-ce que c'est une opportunité politique de suivre cette voie ? Est-ce que c'est ça la polarisation du débat qui nous attend sur la campagne ? Bon, c'est un peu difficile de le dire dès maintenant, mais c'est pas forcément souhaitable de se dire qu'un état de sécurité de type israélien est l'avenir du modèle sécuritaire français. Nous sommes quand même dépositaires d'une longue tradition de sécurité intérieure où nous avons déjà par le passé réussi à résoudre des problèmes compliqués comme celui que nous avons face à nous, donc il faut quand même pas perdre espoir de réussir à le faire dans une identité française de la politique sécuritaire de l'État qui soit quand même conforme à l'idée de revenir très vite à un état civil et à une forme d'ordre public garanti par l'État.